Bien, bonjour à tous. On démarre avec quelques problèmes techniques pour vous qu'ils soient réglés après l'introduction, puisque vous le savez, dans le travail que l'on mène ensemble, les images ont quelque importance et sans les images, je ne serais pas grand-chose cet après-midi avec vous. Dans tous les cas, ravie de revenir, Martine Maslhoff, à Lyon dans le cadre de ce stage Histoire des arts. J'avais pu apprécier l'année dernière la spécificité, dirais-je, au-delà des contenus, de la pluralité des publics. Souvent, au vu de ma casquette, quand j'interviens auprès de professeurs des écoles, en plénière par exemple, ou en groupe de travail, de temps en temps. J'interviens souvent, puisque je viens du Nord. J'interviens d'un département qui est un gros département, 60 circonscriptions pour ceux qui sont du premier degré, ça vous donne la dimension du département. Et j'ai donc cette chance que d'intervenir auprès et de travailler avec des conseillers pédagogiques en art visuel, en musique et des conseillers généralistes, ce qui nous a permis de démarrer petit à petit, mais nombreux, sur ce dossier Histoire des arts qui a démarré, vous le savez, dans les instructions officielles en 2008. Quand j'interviens quand cela est possible, en binôme avec quelques IAIPR, quelques inspecteurs du premier degré. Vous savez que dans nos réflexions s'inscrit souvent le parcours de l'élève. J'avoue que jusqu'au lycée, nous ne l'avons fait qu'une seule fois. Je sais qu'il y a ici des professeurs de lycée et nous arrêtons souvent au début du parcours de l'élève sans pouvoir avoir des publics aussi pluriels ceux que vous réussissez à réunir, Madame Maslhoff. Alors, ravie pour cette ouverture, tout en sachant que mon statut professionnel et mes spécificités professionnelles feront que cet après-midi, je parlerai beaucoup du côté du premier degré. Donc, beaucoup du côté des écoles, tout en essayant de bâtir des ponts et des passerelles entre les connaissances culturelles, et de quelle manière on peut les appréhender dans le début du parcours de l'élève. Et la partie pédagogique, c'est seulement depuis l'année dernière que nous avons véritablement ouvert le dossier quant à la réflexion concernant l'évaluation dans le premier degré. Alors le déclic nous a été donné, et j'ai envie de dire fort heureusement, puisque nous étions quelque part la cerise sur le gâteau. 20 heures à l'emploi du temps du cycle 3, c'est-à-dire pour les classes de CE2, de CM1, de CM2, cela avait le mérite d'exister, mais par rapport aux instructions officielles lancées, les nouvelles instructions de 2008, la première année recentrant sur le français et les mathématiques, recentrant sur une semaine courte, recentrant sur l'aide personnalisée, autant vous dire que la première année dans ce domaine, c'est vrai dans le Nord, mais c'est vrai un peu partout, les choses ont été très, très lentes. Elles ont commencé à démarrer réellement l'année suivante, et on peut dire que là, cette année, les contenus et l'évaluation se déploie plus correctement grâce à un événement important dont vous avez sans doute parlé, je parle d'un événement officiel, à savoir que depuis l'an dernier, le brevet des collèges a une épreuve orale en histoire des arts, ce qui réellement nous a fait changer de place. Quand je dis nous, ce sont tous les amateurs d'art dans le domaine de la pédagogie et qui portaient ces dossiers. Et depuis, donc, nous avons une vraie place pour réfléchir sur quel ancrage de ce nouvel enseignement des... pas dire dès la maternelle, puisqu'en maternelle, c'est une sensibilisation jusqu'au CE1, mais particulièrement dans ce que nous appelons le cycle 3, c'est-à-dire les élèves les plus âgés de l'école élémentaire. Avec quelle casquette je viens ici ? Une double casquette. celle telle que vous le présentiez d'inspectrice de l'éducation nationale, ayant à charge une circonscription, donc des écoles publiques et privées, mais je viens surtout ici avec la casquette de celle qui pilote la mission culture humaniste du département. Avec un historique plus personnel qui donne une coloration à mon parcours, une coloration plastique, ex-conseillère en art plastique, ayant eu à un moment donné, parce que je crois que dans une carrière, il y a des opportunités, ayant eu à un moment donné l'opportunité de travailler à mi-temps dans ce beau et grand musée qui est le musée des Beaux-Arts de Lille. Je sais, arrivant à Lyon, que Lyon et Lille se jouent la concurrence. Rive de Lille, hein, vous le savez, Lyon et Lille se confrontent quelque part, une confrontation saine certes, mais quand on travaille dans ces collections, on sait que chacun, l'évolution des collections permanentes, dans le choix des expositions temporaires, on a deux pôles après le Louvre qui, quelque part, continuent et fort heureusement à faire développer les collections et la qualité du regard des publics. Cela, bien sûr, était pour moi une opportunité importante que d'avoir cette double casquette, celle qui, quand elle était au musée, défendait la pédagogie, celle qui, quand elle était dans les écoles, défendait la culture. Voilà pour les présentations. Alors, je rentre dans les contenus en espérant avoir des images un peu visibles. Pour l'instant, j'en doute, puisqu'Olivier n'est toujours pas arrivé, mais nous allons néanmoins commencer avec des bribes d'images que peut-être je pourrais vous présenter plein pot et en plein écran juste après. Quels sont mes choix pour cet après-midi ? J'ai pu voir votre parcours cette semaine, grandement axé sur des connaissances scientifiques. Aujourd'hui, sur les 5 images scannées que je vais vous présenter, ces images, prenez-les comme des prétextes pour qu'ensuite je vous parle de l'évaluation. Mais il me semble important de lire avec vous quelques images pour vous montrer de quelle manière elles sont lues avec de très jeunes élèves et de quelle manière elles sont présentées pour être en phase et en osmose avec nos instructions officielles. Alors pour parler du Moyen-Âge, j'ai pris là des entrées qui sont inhabituelles. Celles qui sont habituelles sont celles des lieux, une église romane, une cathédrale. Celles qui sont habituelles sont celles des manuscrits, ce sur quoi vous avez travaillé cette semaine. Celles qui sont habituelles sont, et très 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 souvent, la tapisserie de Bayeux, et tant mieux, ça raconte une histoire et nos élèves y entrent à leur manière, guidés, plus ou moins bien guidés, hein, selon que nos enseignants soient amateurs d'art ou non. Celles qui sont habituelles, c'est ce dont on parlera encore, je crois, cet après-midi, la Dame à la licorne, et tant mieux, ces œuvres font partie maintenant d'une rencontre, puisqu'elles sont recommandées par la liste ministérielle, elles sont l'objet d'une rencontre dans nos classes. Moi, je suis venue avec quelques œuvres du musée de Lille pour rentrer également dans un espace qui est peu visité, qui est celui aussi des œuvres à caractère religieux. Des œuvres à caractère religieux avec, vous verrez, les limites de notre discours quand on travaille avec de très jeunes élèves. Alors sur mon écran, elle est complètement ramassée. Ah, c'est mieux sur l'écran qui est là, hein, même si la qualité d'image reste moyenne. Vous êtes devant cette image. J'apprécie assez pour des premières rencontres que l'on se remette dans la position d'un enfant qui découvre. Qu'est-ce que je vois ? Si je n'ai pas de code de la culture religieuse ou catholique, je vois, je repère une dame couronnée. Peut-être est-ce une reine. Je repère qu'elle a dans ses mains, dans ses bras, un enfant. Je repère une matière, visiblement du bois. Je peux d'ailleurs vous dire que c'est du chêne, une matière rugueuse qui a été altérée par le temps, tellement altérée que je peux compléter vos connaissances et certains ne seront pas étonnés de ce que je vais leur dire. Cette œuvre rustique et monochrome aujourd'hui était polychrome. Je voyais à l'entrée une petite affiche qui évoquait le jaune d'or, hein, le doré des coiffures que portaient, qui étaient symboliques l'époque du Moyen-Âge. Sans doute, on peut imaginer qu'elle était jaune et que son vêtement était bleu, un symbolique dont parle Pastoureau, pour lequel j'ai vu qu'on faisait également de la publicité, non pas pour son ouvrage sur les couleurs, mais pour son ouvrage sur les bestiaires. Ce que je vois, c'est que l'enfant qu'elle a dans ses mains, dans ses bras, n'est pas un bébé, n'est pas un tout jeune enfant, qu'il est vêtu et qu'il a un geste qu'on va appeler de présentation. Il se présente au monde, disent les textes. Vous imaginez bien que cette lecture est une seconde lecture et qu'après les premiers regards, c'est l'enseignant, l'adulte, qui complétera cette présentation. En classe, puisque là on imagine la classe au musée, la rencontre se poursuivra. Le terme qu'on utilise en littérature de jeunesse et qu'on utilise dans notre jargon aussi en matière artistique est de mettre en réseau et de comparer avec d'autres vierges romanes. Et nos élèves remarqueront que si ici elle a un bras cassé simplement parce que la partie de la composition du bois était un ajout alors que dans l'autre partie du bloc on a creusé, mis à part ce détail, en comparant d'autres vierges romanes, nos élèves et nos maîtres verront que les différences ne sont pas si importantes que cela. Qu'on a, d'une certaine manière, des formes codées que l'on retrouvera dans un grand nombre d'œuvres d'art du XIIe siècle. Ce que l'on ne voit pas d'un premier coup d'œil, si vous suivez les plissés du genou, à peine visibles, parce que l'objectif n'est pas de montrer le corps, simplement de présenter l'enfant, cette Vierge en majesté a ses pieds, écrase un élément qui est à ses pieds, à vrai dire à peine visible dans la sculpture de bois, mais décodable à l'époque, moins décodable pour nous, qui est en fait un animal qu'on pourrait définir fantastique, un espèce de petit dragon, en fait. La Vierge, là, terrasse, écrase, symboliquement, le mal, le diable. Information complémentaire, bien sûr, que nous donnerons à nos élèves, et on pourra, là aussi, mettre en réseau et faire de multiples comparaisons, le bien et le mal présentés dans cette œuvre. Image suivante. Au XIIIe siècle, si nous regardons ce que nous voyons tout simplement, eh bien, notre regard change, notre émotion change. Y avait-il beaucoup d'émotions précédemment ? Peut-être dans la contact de l'objet avec la matière. Là, bien sûr, les messages sont autres. La relation existe entre la Vierge et l'enfant. Regardez les mains qui se touchent, appréciez la tendresse, la douceur. Rappelez-vous la Vierge en majesté très, très hiératique précédemment. Ici, on est dans l'élégance. l'élégance de la posture, l'élégance du vêtement, l'élégance de la relation, dirais-je, l'élégance des détails, la précision des détails, le voile avec ce léger liseré autour de la tête, les plis en tablier qui correspondent à la mode de l'époque, et voilà une autre Vierge à l'enfant, très différente au niveau de ce qu'elle peut provoquer. Et vous voyez que là, plus trop, les élèves non plus, les professeurs non plus, les adultes non plus, n'ont plus besoin, autant besoin, de lecture au second degré. Tout est dit, de par la mouvance, la relation qui existe dans l'œuvre. Bien sûr, même si l'œuvre n'est pas bien plus grande, on a des petits formats d'une trentaine de centimètres pour l'une et pour l'autre, mais il y a la matière aussi qui est différente. Précédemment, nous avions un objet en chêne. Ici, nous avons un objet en marbre. Nous pourrions avoir, c'est le cas de ce qui est présenté, je sais que le musée de Cluny est venu, de ce qui est présenté dans pas mal de musées pour ce qui concerne les vierges gothiques de cette époque, cela pourrait être aussi de l'ivoire. Il se trouve que là, le marbre travaillé comme un travail d'orfèvre avec beaucoup de précision nous donne aussi une émotion très différente. Ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'apprends petit à petit de l'époque gothique qui, elle, permet quelque part au divin de s'humaniser, et on l'a ici de manière très nette dans cette Vierge à l'enfant. Mise en réseau, mise en comparaison, je ne vous ai pas ramené la Vierge à l'enfant de Raphaël à la Renaissance, mais bien sûr dans nos classes, quand on ne rompt pas à une époque donnée, nous irons voir aussi des comparaisons. Je ne vous ai pas donné à voir une mère à l'enfant très baroque, très dans le mouvement, ostentatoire et généreuse à tout niveau, théâtrale. Je ne vous ai pas donné à voir une œuvre du XXe, par exemple, une mère et enfant de Modigliani, avec une épuration des formes, il y a des relations avec une simplification des formes qui nous permettent de faire des allers-retours dans l'histoire de l'art en jouant cette mise en réseau. Voilà pour une première approche. Elle ne vient pas du nord, elle vient du sud, celle-ci. Une parenthèse, elle fait partie de la liste EduSCOL et de recommandations pour le premier degré. Pour le premier degré, on a des recommandations pour les 5 périodes et les 6 domaines des arts, avec des noms d'œuvres, des noms d'artistes, quelquefois de manière complète, quelquefois de manière incomplète du reste. Mais des propositions de style. La question des styles à l'école élémentaire est sans doute prématurée. Ceci explique cela. Et quand on est dans le second degré, on est plutôt là dans des axes thématiques. Pour ce travail que nous menons ensemble cet après-midi, il s'agirait d'une continuité de réflexion et d'appréhension des œuvres sur la question du sacré quand on est au second degré, voire même au lycée. Alors, changement de registre. Rappelez-vous, avec l'œuvre précédente, nous étions dans la douceur, dans la tendresse. Ici, on n'est plus à la même époque, mais ce n'est pas une question d'époque seulement. Ça l'est également. Néanmoins, on est au XVe siècle, on est à la fin du Moyen-Âge avec cette œuvre, cette Pietà de ce peintre provençal. Et on est là face à la douleur et à l'amour associés. La douleur très importante, présentée, lisible dans le visage de la mère. On sent que cette rupture avec son fils mort est une épreuve extrêmement difficile à vivre. On sent également Saint Jean qui est à ses côtés, qui avec beaucoup d'élégance et beaucoup de comme un geste musical comme s'il jouait d'un instrument de musique, touche la chevelure du Christ. Et Marie-Madeleine, que l'on reconnaît à son attribut, ce vase de parfum que l'on peut voir dans sa main, qui est là, inscrite, ainsi qu'avec les trois autres personnages de la scène, inscrite dans ce triangle qui nous fait voir, bien sûr, de manière radicale, ce corps blanchâtre et complètement incurvé dans un dessin, si les scientifiques voulaient faire une analyse du corps, complètement impossible, hein, tellement il est comme un arc, un peu comme un corps d'épileptique, avec des membres complètement aux formes complètement accentuées. Regardez la main, par exemple, regardez les pieds, hein, qui devraient être pendants et non pas comme ça tendus. Voilà des particularités de cette œuvre, avec une première impression, au-delà de douleur et amour mêlés, une première impression aussi, quand on regarde de manière rapide cette œuvre, le sombre et le lumineux, la lumière et l'obscurité dans une même œuvre, avec une utilisation du fond d'or qui, pour les spécialistes, pourrait rappeler les codes de la peinture byzantine, alors qu'on est au XVe siècle. Sachez que c'est très fréquent, qu'il y a même, particulièrement dans le sud et en Espagne, des œuvres très tardives qui reprendront, hein, cette façon de faire des œuvres byzantines, sauf que là, bien sûr, il reste ce fond d'or, mais qu'il y a beaucoup d'expressions dans les personnages, ce que l'on ne trouverait pas dans une icône byzantine avec ses codes habituels. Autre nouveauté, et qui cet aspect-là se poursuivra au XVIe siècle, c'est la présence de ce chanoine, de ce personnage qui ne fait pas partie de la scène, qui est sans doute le commanditaire, et qui fait partie des premiers portraits que l'on trouve à la fin du Moyen Âge. Ruteboeuf, que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés, ils ont été trop clairsemés. Je crois le vent les a ôtés, l'amour est morte. Un autre texte, Frères humains, sans doute l'avez-vous entendu en chanson, je crois que c'est Brassens, le précédent c'est Léo Ferré qui le chante. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséchés et noircis. Pis, corbeaux, nous ont les yeux lavés et arrachés la barbe et les sourcils. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Quand j'anime des conférences plénières sur ces sujets, il me semble important de créer pour nos maîtres et nos élèves des passerelles entre les domaines des arts. Que disent les mots ? Que disent les mots ? Que dit l'œuvre ? À leur manière, bien sûr. Je pourrais vous mettre, je l'ai emmené, mais je fais ça quand j'ai un petit peu plus de temps. Je pourrais vous mettre, ce n'est pas d'époque, c'est du 18e, le Requiem de Mozart, pour sentir aussi la douleur par le biais de la musique et aussi une forme d'espérance. Passerelle entre les arts, voilà de quelle manière nous incitons à faire en sorte que ce qui est suggéré par les instructions officielles trouve sens, trouve une approche sensible dans nos classes, dans le premier degré. Un objet que l'on trouve dans les églises, que l'on trouve encore et toujours dans les églises, vous n'en voyez qu'une face, vous adultes, vous en connaissez la fonction. Mais d'abord, que voyons-nous ? Sur cette face-ci, il y en a quatre, hein. On peut faire le tour de l'objet. On apprécie la matière, on apprécie la pierre. On sent une pierre gravée, sculptée, un bas-relief, avec quelque chose de représenté assez indéfinissable. Mais faut-il le définir précisément ? On peut tout à fait définir qu'il s'agit de quelque chose de fantastique. Peut-être un animal fantastique, peut-être un personnage fantastique. Quand on y regarde de tout près, En fait, ce visage tout rond porte au-dessus de la tête, au-dessus de sa gueule, pourrais-je dire aussi, une crinière. Il est très éloigné d'une représentation scientifique, c'est un lion, et il est complètement transformé et métamorphosé du fait de ce qui l'entoure, à savoir cette multiplicité de rinceaux qui se rajoutent autour de ce visage. Répertoire du fantastique, très présent à l'époque du Moyen-Âge. Répertoire fantastique, si on lit l'œuvre de cette manière-là, sans connaissance complémentaire. Si on la lit de manière symbolique, alors on est très proche de ce qu'on a vu tout à l'heure, avec la Vierge en majesté qui écrase, vous vous rappelez, de ses pieds le diable, le mal. Ici, on interpelle dans cet objet qui sont des fonts baptismaux, on interpelle le fidèle qui vient à l'église pour être baptisé, on est en quête du bien et on symbolise en opposition le mal avec ce lion. Quand on fait le tour de cet objet, il y a également deux petits personnages pour lesquels on a l'impression qu'il s'agit d'Adam et Ève, qui sont en fait les saints qui ont évangélisé le secteur là du sud du département et qui sont représentés avec cette particularité que l'on a à la fois dans les statues colonnes et dans des objets de ce type-là, de sculpteurs qui s'adaptent au cadre. Alors on a des complètes disproportions qui n'ont aucune espèce d'importance pour les sculpteurs qui les réalisent, ce qui est fréquent dans la sculpture des églises, la sculpture des cathédrales et les objets sculptés que l'on peut avoir. Ici, ils sont au musée, mais vous savez très bien que leur place était dans les églises, ils ont été transportés dans les musées. Fonds baptismaux de Coussorles, hein, qui se situe au sud du département du Nord, qui est là présenté dans une pierre grise, calcaire, un objet qui intéresse les élèves parce qu'ils ont l'habitude des gremlins et ils ne sont pas du tout surpris ni choqués par ce magnifique répertoire du fantastique que l'on trouve au Moyen-Âge. Ce qui est plus difficile, et vous le savez, hein, j'occulte les difficultés pour l'instant, c'est plus la question du temps et resituer les œuvres dans le temps. Chez nous, hein, ça se fera par propositions successives, d'abord à l'école, sans être persuadé qu'ils mesurent qu'on est en train de leur présenter des œuvres du Moyen-Âge, et c'est petit à petit, dans leur parcours, que grâce à des frises chronologiques, grâce à des rappels, grâce à des mises en réseau, que effectivement la connaissance s'approfondira, la connaissance d'une époque. On passe à un objet qui est toujours utilisé lors d'obsèques, qui est un encensoir, voilà, je lis sur vos lèvres, madame, qui est un encensoir, qui est un objet de petit format. Ici, vous avez du mal à définir la matière, il est en laiton, et il reprend un peu en synthèse de ce que nous avons dit, à la fois dans le bas, sur la partie basse et la partie haute de la sphère des animaux fantastiques, hein, tout un répertoire fabuleux fait de manière réalisée de manière très très précise. Et au-dessus, en fait, il y a trois petits personnages, on en voit deux, puis un au-dessus. Celui qui est au-dessus, ses ailes ont été cassées, abîmées par le temps, il s'agit d'un ange. Et en fait, quand l'encensoir joue sa fonction et quand l'encens est en train de brûler, ces trois Hébreux sont sauvés, seront sauvés du feu par l'ange. Donc des œuvres qui racontent des histoires à caractère religieux certes, mais aussi des œuvres avec des éléments fantastiques. Voilà les deux éléments que l'on trouve dans ce petit encensoir Mauzan, hein, qui vient de la Meuse, entre une région qui a été très très productive au Moyen-Âge, et donc nous en avons quelques trésors au Musée des Beaux-Arts de Lille. Voilà pour la mise en appétit des images. Voilà pour les regards qui peuvent être ceux du premier degré. Et voilà pour des apports de connaissances successifs et avec beaucoup d'humilité et beaucoup de lenteur, hein, puisque les œuvres devront être revues dans le parcours de l'élève, comme je vous l'ai dit. Passons d'un contenu à ce que peut vouloir dire. Et là, on avance à petits pas là également, l'évaluation en histoire des arts. Pour être intervenu sur ce sujet auprès des 60 inspecteurs du département, il me semble que le premier message à faire passer était aussi auprès de mes collègues que... Puisque cet enseignement, on peut passer à la vignette suivante, puisque cet enseignement a un caractère obligatoire, puisqu'il est inscrit maintenant comme une véritable épreuve au brevet, il est important que nous, quand nous allons contrôler le travail des maîtres, que nous vérifions au moins, alors c'est pratiquement maintenant, cette année, le cas partout, que cet enseignement est bien effectif dans les classes. Nous vérifions aussi que cet enseignement permet d'aborder, au moins, sur les 3 années, les 5 périodes historiques et les 6 domaines des arts. Puisque notre objectif numéro 1 reste la maîtrise de la langue, il est extrêmement savoureux que d'aller vérifier qu'un vocabulaire nouveau, précis, a été aussi entendu, puis réinvesti et réutilisé par de très jeunes élèves. Je pense au métier dont on a parlé, le sculpteur. Je pense aux matériaux qu'on a découverts. Je pense à des éléments de l'axe plastique. Parler de couleurs, c'est facile. De matière, ça l'est un peu moins. De l'espace, encore un peu moins. Mais ce sont là un certain nombre d'acquis que feront nos élèves, au-delà de l'aspect technique aussi, des connaissances pour parler d'un artiste. Hein, je ne suis pas rentrée dans des éléments de type biographique, parce qu'on en a relativement peu au Moyen-Âge, mais pour d'autres périodes, ces aspects-là feront aussi partie de compétences langagières qu'on développera pour les élèves. Puisque c'est un dossier sensible, je veux dire de connaissances sensibles, ce qui avait lieu à l'école maternelle depuis longtemps, à savoir que nous étions habitués à évaluer nos élèves non pas seulement sur leurs connaissances, mais aussi sur leurs capacités, mais aussi sur leurs attitudes, l'occasion dans ce dossier nouveau, l'occasion nous est donnée de vérifier quelles sont les connaissances acquises par les élèves, quelles sont les capacités qu'a par exemple un binôme, que d'aller présenter la comparaison de la Vierge romane et la Vierge gothique dans une autre classe. L'attitude de curiosité qu'auront certains élèves plus que d'autres à aller à la quête de cette mise en réseau dont je vous parlais. Alors, je vais vous parler du cahier des arts après. Hein. Oui, on peut. Alors, une forme d'évaluation toute générale, mais qui me semble intéressante quand dans de la maternelle à l'élémentaire existe un vrai parcours de l'élève. Pour ce qui me concerne, je l'ai transmis surtout dans une commune où j'ai 7 écoles et où le maire, depuis 3 ans, m'accompagne véritablement sur ce projet. Nous présentons 3 expositions par an. Vous imaginez sur 3 années hein, le nombre d'artistes que cela fait. Hein, par exemple, la dernière en date concernait le jazz. Et on peut donc signaler sur un parcours de l'élève et transmettre au collège les artistes et les périodes historiques qu'ont pu entrevoir nos jeunes élèves. Parcours de l'élève. Autre forme d'évaluation, ça a été lent à se mettre en place. C'est encore un petit peu plus lent, me semble-t-il, au collège, mais pour d'autres raisons, de faire en sorte que les maîtres du CE2, du CM1 et du CM2 fassent des choix communs pour établir des progressions. Alors là, ça n'a rien d'exemplaire. Hein. C'est une progression que j'ai pris, je n'ai pas sélectionné. J'aurais pu vous en présenter des tas d'autres. Mais il me semble déjà que quand dans les écoles, ce travail de réflexion en équipe est bâti, pour se dire, ben voilà, repérez hein, ce qui concerne le Moyen-Âge. Vous voyez, il est traité par deux fois, deux années successives. Et sur des sujets dans chacun des six domaines des arts et sur des périodes différentes avec cette obligation que d'entrevoir l'ensemble des périodes sur le cursus des trois années. Alors, quand je vois, moi, ce type de progression, eh bien, dans la plupart des cas, je dis bravo. Je dis bravo parce qu'il y a eu ce travail en équipe et de concertation. Je dis bravo souvent aussi parce que, dans un premier temps, nos maîtres ont besoin d'aller vers des œuvres pour lesquelles ils sont en reconnaissance, comme dit Bourdieu. Hein, des objets pour lesquels ils seront à l'aise plus que dans d'autres. Hein. On a certains professeurs des écoles, vous savez qu'ils sont polyvalents, plus branchés sur les arts du son. Eh bien, qu'ils fassent ces choix-là et que petit à petit, ils s'ouvrent à un dossier souvent très négligé, qui est celui des arts du quotidien. Un très négligé, non pas parce que c'est des maîtres du Nord pas consciencieux, mais très négligé parce qu'il y a eu un effet de mode sur les arts du quotidien et qui fait que, ici, dans le Nord et ailleurs, cet aspect-là est réellement à revisiter. Le cahier des arts. On ouvre un cahier de plus, mais avec une spécificité, me semble-t-il, importante, du moins sur laquelle moi je combats au quotidien, à la différence d'un cahier d'histoire et de géographie, à la différence d'un cahier de mathématiques, où, dans lequel on pourrait se dire que la synthèse des connaissances ne touche que les connaissances elles-mêmes, ici, il me semble très important que les élèves, au début, là par exemple au cours élémentaire avec leur maître, rappellent ensemble les nouvelles connaissances acquises, mais un autre élément doit apparaître dans ce cahier des arts, qui est ce qui a marqué les élèves. On a vu ces cinq œuvres-là, qu'est-ce qui t'a marqué ? La douleur ? La tendresse, l'élégance, la préciosité. Donc, ils n'utiliseront pas ces mots-là. Mais dans tous les cas, connaissance sensible, si nous n'avons pas, dans le premier degré, ces deux aspects-là, alors il me semble qu'on brade l'enseignement tel qu'il doit être donné dès le plus jeune âge. Approche sensible. Ici, le maître a fait le choix de mettre ce que tu as préféré, ce que tu as aimé. Moi, je préfère le terme « ce qui t'a marqué hein, », parce que ce n'est pas toujours des œuvres qui font rêver, qui les marquent. Hein. Cela peut être aussi des œuvres qui questionnent le monde et de ce fait-là, marquent un élève de 8 ans. Alors, je vais vous montrer quelques... Je suis bien dans les temps encore, ça va. Je vais vous montrer ce que j'ai eu l'occasion de collecter en inspection. D'une part, j'étais ravie que le maître ose présenter une séance d'évaluation durant une inspection, ce qui était fort courageux, me semble-t-il, de la part de ce maître. Et la maîtresse donc avait choisi de reprendre l'étude qui avait été menée sur deux périodes, sur le XXe siècle et sur le Moyen-Âge. Et donc, elle a prévu ce jour-là une évaluation écrite en reprenant sur un document de travail qui était réellement très lisible et très bien préparé des vignettes pour évaluer ses élèves. Alors là, on voit les œuvres sur lesquelles ont travaillé les élèves et on va voir juste après les œuvres sur lesquelles la maîtresse a évalué ses élèves. Alors, vous avez une fiche vierge, et j'aurai le plaisir de vous montrer après une fiche complétée par les élèves. Les élèves ont eu la possibilité de réécouter deux extraits musicaux, l'un étant un chant grégorien et l'autre étant une chanson de troubadour, puisqu'ils avaient étudié le Moyen-Âge, et la comparaison pour la plupart des élèves était relativement aisée, puisque les musiques sont là très différentes. Les élèves avaient à leur disposition des vignettes, et j'ai pu les voir renseigner cette évaluation. Alors souvent, ils ne travaillent pas de manière linéaire, hein. Ils ont travaillé souvent en complétant ce qui était le nom de l'œuvre ou l'auteur ou la période. Ça, c'est trois éléments qui étaient relativement faciles à compléter. Par contre, vous imaginez bien que la case la plus grande et centrale, celle où il faut se justifier et justifier ses réponses, là, à la fois cela suppose une production d'écrit et d'utiliser des termes justes pour parler d'une œuvre, ce qui n'est pas si simple quand on a entre 8 et 10 ans. Et donc, l'objectif était de voir de quelle manière nos élèves justifiaient leurs réponses. Alors, on a un exemple juste après. Ah. Juste après encore, alors voilà, avec des éléments de réponse. Un très bon élève de CM2, hein, vous voyez à quel point les réponses sont étoffées et précises, on n'est pas en RRS. Hein. Je suis là dans une commune accueillant un public scolaire hétérogène et avec des réponses déjà assez complètes. Alors, ce qui m'intéresse surtout que de voir avec vous, c'est d'apprécier de quelle manière les élèves ont réussi à justifier. Alors, si vous prenez le temps de lire en diagonale leurs éléments, soit ils mettent en comparaison, ce ne sont pas les mêmes œuvres, ce sont les mêmes artistes, mais ce ne sont pas les mêmes œuvres. Ça a mis certains élèves réellement en difficulté. Hein, ça veut dire que si je vous montre un Munch, si je leur montre un Munch et une autre œuvre qui n'est pas le cri, ce n'est pas si simple que ça pour eux de repérer la même patte, on va dire, le style de l'artiste. Alors, dans la plupart des cas, la maîtresse a accompagné les élèves pour jouer les comparaisons par rapport aux vignettes et aux œuvres qui avaient été vues dans la classe. Et donc, si on regarde leurs réponses, en fait, leurs réponses sont souvent basées sur des justifications, soit au niveau de la forme, hein, par exemple les formes allongées que je reconnais chez un Giacometti, soit au niveau de la couleur. C'est peut-être soit les réponses que donne le plus automatiquement un élève, c'est peut-être aussi l'aiguillage essentiel qu'a donné le maître. Je n'étais pas à la séance de présentation. Cela veut dire que dans l'entretien que j'ai pu mener, moi j'ai aiguillé le maître en lui disant « Attention, on parle très peu du sujet de l'œuvre. De quoi ça parle ?» Ce qui me semble être un élément très intéressant de justification de la part des élèves. « Attention, on parle très peu de la matière. » Peut-être que la maîtresse n'en a pas parlé. « Attention, on parle très peu de l'organisation de l'espace, qui, par exemple, est importante pour le parchemin, qui est importante pour le poème de Guillaume Apollinaire. » Donc, vous voyez, on a déjà des résultats extrêmement intéressants en matière d'évaluation. On peut encore monter en puissance. Tout dépendra le guidage des professeurs des écoles. C'est eux qui feront évoluer nos élèves. Forte de cette épreuve orale au brevet, je continue à accepter et à valoriser des évaluations par écrit au CE2, au CM1, mais je souhaite réellement que au CM2, pour se préparer à l'épreuve orale déjà, hein, celle du collège, que l'évaluation se fasse au fur et à mesure des séances. Si, et là j'ai repris l'exemple de notre petit parcours d'aujourd'hui, si durant la première séance, pour donner une impulsion, nous visitons le musée des Beaux-Arts de Lille, ou de Lyon, ou d'ailleurs, pour être en contact direct avec les œuvres, lors de la séance suivante, on ouvrira son cahier des arts et on pourra ensemble définir, non pas ce qui a été important, je veux dire le transport en autocar, mais aussi ce qu'on a vu au musée. Je dis ça parce que c'est pas seulement une anecdote hein, chez nous, c'est au-delà de l'affectif, du plaisir de la sortie. Centrons-nous sur les œuvres et qu'avons-nous vu, qu'avons-nous appris, qu'avons-nous senti ce dont on pourra donc parler ensemble, puis ensuite écrire ensemble dans le cahier des arts. Puis s'ouvrir à, par exemple, un ouvrage comme celui de la collection du musée de Cluny, brillamment réalisé par la Réunion des musées nationaux et qui permet à plusieurs pages d'être en comparaison avec des éléments du Fonds permanent de Lille et celui de Paris. Art du langage par le biais d'albums aussi. Hein. Il y a quelques albums extrêmement intéressants qui parlent souvent de chevalerie, mais qui s'intéressent aussi à l'aspect religieux pour les très jeunes élèves, ou des textes tout simplement. Si j'avance au niveau de la troisième séance, eh bien passons aux arts du son et commençons à véritablement évaluer les élèves les plus motivés. Cela peut être dans la présentation du début de la séance. Souvent, c'est le maître qui rappelle ce qu'on a fait de bien. Il peut très bien que ce soit les élèves et qu'on les évalue à ce moment-là. Alors, sur quoi les évalue-t-on ? Sur leur première capacité à analyser des œuvres, sur leur première capacité à les inscrire dans un contexte, sur leur capacité, rappelez-vous, maîtrise de la langue, à s'exprimer oralement et sur le rapprochement des œuvres. Voilà quatre axes qui permettent au maître d'évaluer les élèves. Alors on peut poursuivre de cette manière-là jusqu'à, par exemple, une sixième séance qui, au fur et à mesure, permet d'évaluer nos élèves. Il y a d'autres manières. Je connais certaines circonscriptions et certaines écoles qui ont mis en place ce qu'on appelle chez nous des défis culture, réalisés à partir du corpus d'œuvres vues par les élèves et qui permettent d'aller vérifier de manière ludique les connaissances des élèves. Alors là, c'est plus dans la dynamique de la rencontre d'élèves qui ont travaillé sur un même corpus, par exemple deux classes qui vont se rencontrer, et ce sera un vrai temps d'évaluation avec beaucoup de plaisir, puisque là, souvent, il y a une évaluation qui se fait sur l'instant, mais qui permet aussi de remporter un prix ou de jouer la carte du défi. Voilà pour l'évaluation. Moi, je propose au maître d'évaluer deux fois par an sur deux temps forts sur l'année. Hein, ça permet de ne pas évaluer à chaque période. Ça ferait 5 fois, ça me semble énorme, alors que nous n'avons que 20 heures à l'emploi du temps. Pour ce qui concerne ce que vous avez là sous les yeux, excusez-moi, je travaille un peu rapidement, j'espère pas trop rapidement. Le dernier aspect concerne la validation. Puisqu'on est dans le cadre du socle commun de compétences, il y a certaines circonscriptions qui ont mis en place des protocoles pour valider ce qui réellement correspond à des acquis stabilisés et pour transmettre au collège ce qui correspond à des compétences installées de nos élèves avant que de partir en sixième. Alors, ce protocole-là a été fait pour une circonscription, pour donner une impulsion auprès des maîtres. Bien entendu, un protocole ne peut être qu'un protocole d'école, en relation avec le corpus d'œuvres travaillé par l'école. Hein, sinon, chez nous, ça n'a pas de sens. Hein, les rapprochements seraient véritablement impossibles si on ne s'ancrait pas dans les œuvres qu'ont réellement rencontrées durant l'année les élèves. Alors voilà quelques exemples. Je refais le récapitulatif pour ce qui concerne l'évaluation. Hein. Rappelez-vous l'évaluation du parcours de l'élève. Quelles œuvres ont-ils vues de la maternelle à l'élémentaire ? L'évaluation par le biais du cahier des arts, l'évaluation par le biais des progressions des programmations, L'évaluation écrite, oui, avec un effort à poursuivre sur de quelle manière on va justifier les œuvres qu'on a appris à connaître de manière sensible. Et enfin, la validation qui est bien finalement la reconnaissance d'acquis au bout de 3 ans d'apprentissage. Voilà, le chemin est en cours. Hein. Je vais sans doute encore le faire évoluer au vu de ce qu'on observe dans les classes et des contacts avec les conseillers pédagogiques. C'était un état à aujourd'hui de la question de l'évaluation dans le premier degré. Je vous remercie.